Je reconnus de la sorte que l'homme d'étude qui souhaite un abri peut s'en procurer un pour la durée de la vie à un prix ne dépassant pas celui du loyer annuel qu'il paye à présent. Si j'ai l'air de me vanter plus qu'il ne sied, j'en trouve l'excuse dans ce fait que c'est pour l'humanité plutôt que pour moi-même que je crâne. Et ni mes faiblesses ni mes inconséquences n'affectent la véracité de mon dire. En dépit de grands jargons et moult hypocrisies, balles que je trouve difficile de séparer de mon froment, je respirerai librement et m'étendrai à cet égard tant le soulagement est grand pour le système moral et physique. Et je suis résolu à ne pas devenir par humilité l'avocat du diable. Je m'emploierai à dire un mot utile en faveur de la vérité. Au collège de Cambridge, le simple loyer d'une chambre d'étudiant, à peine plus grande que la mienne, est de $30 par an, quoique la corporation eût l'avantage d'en construire 32 côte à côte et sous un même toit, et que l'occupant subisse l'incommodité de nombreux et bruyants voisins, sans compter peut-être la résidence au quatrième étage. Je ne peux m'empêcher de penser que si nous montrions plus de véritable sagesse à ces égards, non seulement moins d'éducation serait nécessaire, parce que, parbleu, on en aurait acquis déjà davantage, mais la dépense pécuniaire qu'entraîne une éducation disparaîtrait en grande mesure. Les commodités que réclame l'étudiant, à Cambridge ou ailleurs, lui coûtent, à lui ou à quelqu'un d'autre, un sacrifice de vie 10 fois plus grand qu'elle ne ferait avec une organisation convenable d'une et d'autre part. Les choses pour lesquelles on demande le plus d'argent ne sont jamais celles dont l'étudiant a le plus besoin. L'instruction, par exemple, est un article important sur la note du trimestre, alors que pour l'éducation bien autrement précieuse qu'il acquiert en fréquentant les plus cultivés de ses contemporains, ne s'ajoute aucun frais. La façon de fonder un collège consiste, en général, à offrir une souscription de dollars et de cents, après quoi, se conformant aveuglément au principe d'une division du travail poussée à l'extrême, principe auquel on ne devrait jamais se conformer qu'avec prudence, à appeler un entrepreneur, lequel fait de la chose un objet de spéculation et emploie des Irlandais ou autres ouvriers à poser réellement les fondations pendant que les étudiants qui doivent l'être passent pour s'y préparer. Et c'est pour ces bévues qu'il faut que, successivement, des générations paient. Je crois qu'il vaudrait mieux pour les étudiants, ou ceux qui désirent profiter de la chose, aller jusqu'à poser la fondation en eux-mêmes. L'étudiant qui s'assure le loisir et la retraite convoitée en esquivant systématiquement tout labeur nécessaire à l'homme, n'obtient qu'un vil et stérile loisir, se frustrant de l'expérience qui seule peut rendre le loisir fécond. Mais, dira-t-on, entendez-vous que les étudiants fassent la besogne avec leurs mains au lieu de leur tête ? Ce n'est pas exactement ce que j'entends, mais j'entends quelque chose qu'on pourrait prendre en grande partie pour cela. J'entends qu'ils devraient ne pas jouer à la vie, ou se contenter de l'étudier, tandis que la communauté les entretient à ce jeu dispendieux, mais la vivre pour de bon du commencement à la fin. Comment pourrait la jeunesse apprendre mieux à vivre qu'en faisant tout d'abord l'expérience de la vie ? Il me semble que cela lui exercerait l'esprit tout autant que le font les mathématiques. Si je voulais qu'un garçon sache quelque chose des arts et des sciences, par exemple, je ne suivrais pas la marche ordinaire qui consiste simplement à l'envoyer dans le voisinage de quelques professeurs où tout se professe et se pratique sauf l'art de la vie. Surveiller le monde à travers un télescope ou un microscope et jamais avec les yeux que la nature lui a donnés. Étudier la chimie et ne pas apprendre comment se fait son pain, ou la mécanique et ne pas comprendre comment on le gagne. Découvrir de nouveaux satellites à Neptune et non les pailles qu'il a dans l'œil, ni de quel vagabond il est lui-même un satellite. Ou se faire dévorer par les monstres qui pullulent tout autour de lui, dans le temps qu'il contemple les monstres que renferme une goutte de vinaigre. Lequel aurait fait le plus de progrès au bout d'un mois ? Du garçon qui aurait fabriqué son couteau à l'aide du minerai extrait et fondu par lui, en lisant pour cela tout ce qui serait nécessaire, ou du garçon qui, pendant ce temps-là, aurait suivi les cours de métallurgie à l'Institut et reçu de son père un canif de chez Rogers. Lequel serait avec le plus de vraisemblance destiné à se couper les doigts ? À mon étonnement, j'appris, en quittant le collège, que j'avais étudié la navigation. Ma parole, fussé-je descendu faire un simple tour au port, que j'en eusse su davantage à ce sujet. Il n'est pas jusqu'à l'étudiant pauvre qui n'étudie et ne s'entende professer l'économie politique seule, alors que cette économie de la vie, synonyme de philosophie, ne se trouve même pas sincèrement professée dans nos collèges. Le résultat, c'est que pendant qu'il lit Adam Smith, Ricardo et Say, il endette irréparablement son père. Tel il en est de nos collèges, tel il en est de 100 perfectionnements modernes. On se fait illusion à leur égard. Il n'y a pas toujours progression positive. Le diable continue à exiger jusqu'au bout un intérêt composé pour son avance de fonds et ses nombreux placements à venir en eux. Nos inventions ont coutume d'être de jolis jouets qui distraient notre attention des choses sérieuses. Ce ne sont que des moyens perfectionnés tendant à une fin non perfectionnée. Une fin qu'il n'était déjà que trop aisé d'atteindre, comme les chemins de fer mènent à Boston ou New York. Nous n'avons de cesse que nous n'ayons construit un télégraphe magnétique du Maine au Texas. Mais il se peut que le Maine et le Texas n'aient rien d'important à se communiquer. L'un ou l'autre se trouve dans la situation de l'homme qui, empressé à se faire présenter à une femme aussi sourde que distinguée, une fois mis en sa présence et l'extrémité du cornet acoustique placée dans la main, ne trouva rien à dire. Comme s'il s'agissait de parler vite et non de façon sensée. Nous brûlons de percer un tunnel sous l'Atlantique et de rapprocher de quelques semaines le vieux monde du nouveau. Or, peut-être, la première nouvelle qui s'en viendra frapper la vaste oreille battante de l'Amérique sera-t-elle que la princesse Adélaïde a la coqueluche. L'homme dont le cheval fait un mille à la minute n'est pas, après tout, celui qui porte les plus importants messages. Ce n'est pas un évangéliste, ni ne s'en vient-il mangeant des sauterelles et du miel sauvage. Je doute que Flying Childers ait jamais porté une mesure de froment au moulin. On me dit « Je m'étonne que vous ne mettiez pas d'argent de côté. Vous aimez les voyages, vous pourriez prendre le chemin de fer et aller à Fitchburg aujourd'hui pour voir le pays. » Mais je suis plus sage. J'ai appris que le voyageur le plus prompt est celui qui va à pied. Je réponds à l'ami « Supposez que nous essayons de voir qui arrivera là le premier. » La distance est de 30 000. Le prix du billet, de 90 cents. C'est là presque le salaire d'une journée. Je me rappelle le temps où les salaires étaient de 60 cents par jour pour les journaliers sur cette voie. Soit, me voici parti à pied, et j'atteins le but avant la nuit. J'ai voyagé de cette façon des semaines entières. Vous aurez pendant ce temps travaillé à gagner le prix de votre billet et arriverez là-bas à une heure quelconque demain, peut-être ce soir, si vous avez la chance de trouver de l'ouvrage en temps. Au lieu d'aller à Fitchburg, vous travaillerez ici la plus grande partie du jour. Ce qui prouve que si le chemin de fer venait à faire le tour du monde, j'aurais, je crois, de l'avance sur vous. Et pour ce qui est de voir le pays, comme acquérir par là de l'expérience, il me faudrait rompre toute relation avec vous. Telle est la loi universelle que nul homme ne saurait éluder, et au regard du chemin de fer même, on peut dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Faire autour du monde un chemin de fer profitable à tout le genre humain équivaut à niveler l'entière surface de la planète. Les hommes ont une notion vague que s'ils entretiennent assez longtemps cette activité, tant de capitaux par action que de pelles et de pioches, tout à la longue roulera quelque part, en moins de rien et pour rien. Mais la foule a beau se ruer à la gare et le conducteur crier « Tout le monde en voiture !», la fumée une fois dissipée, la vapeur une fois condensée, on s'apercevra que pour un petit nombre à rouler, le reste est écrasé. Et on appellera cela, et ce sera un triste accident. Nul doute que puissent finir par rouler ceux qui auront gagné le prix de leur place, c'est-à-dire s'ils vivent assez longtemps pour cela. Mais il est probable que vers ce temps-là, ils auront perdu leur élasticité et tout désir de voyager. Cette façon de passer la plus belle partie de sa vie à gagner de l'argent pour jouir d'une liberté problématique durant sa moins précieuse partie me rappelle cet Anglais qui s'en alla dans l'Inde pour faire d'abord fortune afin de pouvoir revenir en Angleterre mener la vie d'un poète. Que ne commença-t-il par monter au grenier ? Et quoi ? S'écrit un million d'Irlandais surgissant de toutes les cabanes du pays. Ce chemin de fer que nous avons construit ne serait donc pas une bonne chose ? À cela, je réponds, oui, relativement bonne. C'est-à-dire que vous auriez pu faire pis. Mais je souhaiterais, puisque vous êtes mes frères, que vous puissiez mieux avoir employé votre temps qu'à piocher dans cette boue. Avant de finir ma maison, désirant gagner 10 ou 12 dollars suivant un procédé honnête et agréable, en vue de faire face à mes dépenses extraordinaires, j'ensemençais près d'elle 2 acres et demi environ de terre légère et sablonneuse, principalement de haricots, mais aussi une petite partie de pommes de terre, maïs, pois et navets. Le lot est de 11 acres en tout, dont le principal pousse en pin et hickories, et fut vendu la saison précédente à raison de 8 dollars 800 l'acre. Certains fermiers déclaraient que ce n'était bon à rien qu'à élever des piaillards d'écureuils. Je ne mis aucune sorte d'engrais dans ce sol, dont non seulement je n'étais que le squatter, pas le propriétaire, mais ne comptais pas en outre recommencer à cultiver autant, et je ne sarclais pas complètement tout sur l'heure. En labourant, je mis au jour plusieurs cordes de souche qui m'approvisionnèrent de combustible pour longtemps, et laissèrent le petit cercle de terreau vierge, aisément reconnaissable, tant que dura l'été, à une luxuriance plus grande de haricots en ces endroits-là. Le bois mort et en grande partie sans valeur marchande, qui se trouvait derrière ma maison, ainsi que le bois flottant de l'étang, ont pourvu au reste de mon combustible. Il me fallut louer une paire de chevaux et un homme pour le labour, bien que je conduisisse moi-même la charrue. Mes dépenses de fermage pour la première saison, en outils, semences, travail, etc., montèrent à 14,72 $. Le maïs de semences me fut donné. Il ne revient jamais à une somme appréciable, à moins qu'on ne sème plus qu'il ne faut. J'obtins 12 boisseaux de haricots et 18 de pommes de terre, sans compter un peu de pois et de maïs vert. Le maïs jaune et les navets furent trop tardifs pour produire quelque chose. Mon revenu de la ferme, tout compris, fut de 23,44 $. Déduction des dépenses, 14,72 $. Reste, 8,71 $. Outre le produit consommé et le produit en réserve lors de cette évaluation, estimé à 4,50 $, le montant de la réserve faisant plus que compenser la valeur d'un peu d'herbe que je ne fis pas pousser. Tout bien considéré, c'est-à-dire considérant l'importance d'une âme d'homme et du moment présent, malgré le peu de temps que prit mon essai, que dis-je, en partie même à cause de son caractère passager, je crois que ce fut faire mieux que ne fit nul fermier de Concord cette année-là. L'année suivante, je fis mieux encore, car c'est à la bêche que je retournai toute la terre dont j'avais besoin, environ le tiers d'un acre, et j'appris par l'expérience de l'une et l'autre année, sans m'en laisser le moins du monde imposer par nombre d'ouvrages célèbres sur l'agriculture, Arthur Young comme le reste, que si l'on vivait simplement, et ne mangeait que ce que l'on ait fait pousser, ne faisait pousser plus que l'on ne mange, et ne l'échangeait contre une quantité insuffisante de choses plus luxueuses, autant que plus coûteuses, on n'aurait besoin que de cultiver quelques verges de terre. Que ce serait meilleur marché de les bêcher que de se servir de bœufs pour les labourer, de choisir de temps à autre un nouvel endroit que de fumer l'ancien, et qu'on pourrait faire tout le travail nécessaire de sa ferme, comme qui dirait de la main gauche à ses moments perdus en été. Que de la sorte on ne serait pas lié à un bœuf, à un cheval, à une vache ou à un cochon comme à présent. Je tiens à m'expliquer sur ce point avec impartialité, et comme quelqu'un qui n'est pas intéressé dans le succès ou l'insuccès de la présente ordonnance économique et sociale. J'étais plus indépendant que nul fermier de Concord, car je n'étais enchaîné à maison ni ferme, et pouvais suivre à tout moment la courbe de mon esprit, lequel en est un fort tortueux. En outre, me trouvant déjà mieux dans mes affaires que ces gens, ma maison eût-elle brûlé ou ma récolte manqué, que je ne me fusse guère trouvé moins bien dans mes affaires qu'avant. J'ai accoutumé de penser que les hommes ne sont pas tant les gardiens des troupeaux que les troupeaux sont les gardiens des hommes, tellement ceux-là sont plus libres. Hommes et bœufs font échange de travail. Mais si l'on ne considère que le travail nécessaire, on verra que les bœufs ont de beaucoup l'avantage, tant leur ferme est la plus grande. L'homme fournit un peu de sa part de travail d'échange en ces 6 semaines de fenaison, et ce n'est pas un jeu d'enfant. Certainement une nation vivant simplement sous tout rapport, c'est-à-dire une nation de philosophes, ne commettrait jamais telle bévue que d'employer le travail des animaux. Oui, il n'a jamais été, ni ne semble devoir être de sitôt, de nation de philosophes. Pas plus, j'en suis certain, que l'existence en puisse être désirable. Toutefois, jamais je n'aurais, moi, dressé un cheval plus qu'un taureau, ni pris en pension en échange de quelque travail qu'il pût faire pour moi, de peur de devenir tout bonnement un cavalier ou un bouvier. Et la société, ce faisant, parut-elle la gagnante, sommes-nous certains que ce qui est gain pour un homme n'est point perte pour un autre, et que le garçon d'écurie a les mêmes motifs que son maître de se trouver satisfait. En admettant que sans cette aide, quelques ouvrages publics n'eussent pas été construits, dont l'homme partage la gloire avec le bœuf et le cheval, s'ensuit-il qu'il n'eût pu dans ce cas accomplir des ouvrages encore plus dignes de lui. Lorsque les hommes se mettent à faire un travail non pas simplement inutile ou artistique, mais de luxe et frivole, avec leur assistance, il va de soi qu'un petit nombre fait tout le travail d'échange avec les bœufs, ou en d'autres termes, devient esclave des plus forts. L'homme ainsi non seulement travaille pour l'animal en lui, mais en parfait symbole, travaille pour l'animal hors de lui. Malgré maintes solides maisons de briques ou de pierres, la prospérité du fermier se mesure encore suivant le degré auquel la grange couvre de son ombre la maison. Cette ville-ci passe pour posséder les plus grandes maisons de bœufs, de vaches et de chevaux qui soient aux alentours, et elle n'est pas en arrière pour ce qui est de ses édifices publics. Mais en fait de salles destinées à un libre culte ou à une libre parole, il en est fort peu dans ce comté. Ce n'est pas par leur architecture, mais pourquoi pas justement par leur pouvoir de pensée abstraite que les nations devraient chercher à se commémorer? Combien plus admirable le Bhagavad Gita que toutes les ruines de l'Orient. Les tours et les temples sont le luxe des princes. Un esprit simple et indépendant ne peine pas sur l'invitation d'un prince. Le génie n'est de la suite d'aucun empereur, pas plus que ses matériaux d'argent, d'or ou de marbre, sauf à un insignifiant degré. À quelle fin, dites-moi, tant de pierres travaillées? En Arcadie, lorsque j'y fus, je ne vis point qu'on martelât de pierres. Les nations sont possédées de la démente ambition de perpétuer leur mémoire par l'amas de pierres travaillées qu'elles laissent. Que serait-ce si d'égales peines étaient prises pour adoucir et polir leurs mœurs? Un seul acte de bon sens devrait être plus mémorable qu'un monument aussi haut que la lune. Je préfère voir les pierres en leur place. La grandeur de Thèbes fut une grandeur vulgaire. Plus sensé le cordon de pierre qui borne le champ d'un honnête homme qu'une Thèbe aux 100 portes qui s'est écartée davantage du vrai but de la vie. La religion et la civilisation, qui sont barbares et païennes, construisent de splendides temples. Mais ce que l'on pourrait appeler le christianisme n'en construit pas. La majeure partie de la pierre qu'une nation travaille prend la route de sa tombe seulement. Cette nation s'enterre vivante. Pour les pyramides, ce qu'elles offrent surtout d'étonnant, c'est qu'on ait pu trouver tant d'hommes assez avilis pour passer leur vie à la construction d'une tombe destinée à quelque imbécile ambitieux qu'il eût été plus sage et plus mal de noyer dans le Nil pour ensuite livrer son corps aux chiens. Je pourrais peut-être inventer quelque excuse en leur faveur et la sienne, mais je n'en ai pas le temps. Quant à la religion et l'amour de l'art des bâtisseurs, ce sont à peu près les mêmes par tout l'univers, que l'édifice soit un temple égyptien ou la banque des États-Unis. Cela coûte plus que cela ne vaut. Le grand ressort, c'est la vanité, assistée de l'amour de l'ail et du pain et beurre. Monsieur Balcom, jeune architecte plein de promesses, le dessine sur le dos de son Vitruve, au crayon dur et à la règle, puis le travail est lâché à Dobson et fils, tailleur de pierre. Lorsque les 30 siècles commencent à abaisser les yeux dessus, l'humanité commence à lever dessus les siens. Quant à vos hautes tours et monuments, il y eut jadis en cette ville-ci un cerveau brûlé qui entreprit de percer la terre jusqu'à la Chine, et il atteignit si loin que, à son dire, il entendit les marmites des casseroles chinoises résonner. Mais je crois bien que je ne me détournerai pas de mon chemin pour admirer le trou qu'il fit. Cela intéresse nombre de gens de savoir à propos des monuments de l'Ouest et de l'Est. Qui les a bâtis? Pour ma part, j'aimerais savoir qui, en ce temps-là, ne les bâtit point. Qui fut au-dessus de telle futilité? Mais poursuivons mes statistiques. Grâce à des travaux d'arpentage, de menuiserie, à des journées de travail de diverses autres dans le village entre-temps, car je compte autant de métiers que de doigts, j'avais gagné 13 $ 34. La dépense de nourriture pour 8 mois, à savoir du 4 juillet au 1er mars, époque où ces estimations furent faites, quoique j'habitasse là plus de 2 ans, sans tenir compte des pommes de terre, d'un peu de maïs vert et de quelques pois que j'avais fait pousser, et sans avoir égard à la valeur de ce qui était en réserve à la dernière date, fut riz 1 $ 73 et demi. Mélasse 1 $ 73, la forme la moins chère de la saccharine. Farine de seigle 1 $ 4 3/4. Farine de maïs 99 3/4, moins chère que le seigle. Porc 22. Tous les essais qui suivent échouèrent. Fleur de farine, 88 cents, revient plus cher que la farine de maïs, argent et ennui à la fois. Sucre, 80 cents. Saindoux, 65 cents. Pommes, 25 cents. Pommes séchées, 22 cents. Patates, 10 cents. Une citrouille, 6 cents. Un melon d'eau, 2 cents. Sel, 3 cents. Oui, je mangeais la valeur de 8 $ 74 en tout et pour tout. Mais je ne divulguerais pas ainsi effrontément mon crime si je ne savais la plupart de mes lecteurs tout aussi criminels que moi, et que leurs faits et gestes n'auraient pas meilleur air une fois imprimés. L'année suivante, je pris de temps à autre un plat de poisson pour mon dîner, et une fois j'allais jusqu'à égorger une marmotte qui ravageait mon champ de haricots, opérer sa transmigration, comme dirait un tartare, et la dévorer un peu à titre d'essai. Mais si elle me procura une satisfaction momentanée, en dépit de certains goûts musqués, je m'aperçus qu'à la longue ce ne serait pas une bonne habitude. Dût-on faire préparer ces marmottes par le boucher du village. L'habillement et quelques dépenses accessoires, entre les mêmes dates, si peu qu'on puisse induire de cet article, montèrent à 8 $ 40 3/4. Huile et quelques ustensiles de ménage, 2 $. De sorte que toutes les sorties d'argent, sauf pour le lavage et le raccommodage, qui en grande partie furent faits hors de la maison, et dont les notes n'ont pas encore été reçues, et ces dépenses sont toutes, et plus que toutes les voies par lesquelles sort nécessairement l'argent en cette partie du monde, furent maison 28 $ 12 et demi. Ferme, une année, 14 $ 72 et demi. Nourriture, 8 mois, 8 $ 74. Habillement, etc., 8 mois, 8 $ 40 3/4. Huile, etc., 8 mois, 2 $. En tout, 61 $ 99 3/4. Je m'adresse en ce moment à ceux de mes lecteurs qui ont à gagner leur vie. Et pour faire face à cela, j'ai vendu comme produit de ferme 23 $ 44. Gagné par le travail journalier, 13 $ 34. En tout, 36 $ 78. Qui, soustrait de la somme des dépenses, laisse une balance de 25 $ 21 3/4 d'un côté, ce qui représente à peu de choses près les moyens grâce auxquels je débutais et la mesure des dépenses à prévoir, de l'autre, outre le loisir, l'indépendance et la santé ainsi assurées, une maison confortable pour moi aussi longtemps qu'il me plaira de l'occuper. Cette statistique, si accidentelle et par conséquent peu instructive qu'elle puisse paraître, étant assez complète, a par cela même une certaine valeur. Rien ne me fut donné dont je n'ai rendu quelque compte. Il résulte du précédent aperçu que ma nourriture seule me coûta en argent 27 cents environ par semaine. Ce fut, au cours de presque 2 années après cela, du seigle et de la farine de maïs sans levain, des pommes de terre, du riz, un tout petit peu de porc salé, de la mélasse et du sel. Et ma boisson, de l'eau. Il était séant que je vécusse de riz principalement, moi qui tant aimais la philosophie de l'Inde. Pour aller au-devant des objections de quelques chicaneurs invétérés, je peux aussi bien dire que si je dînais parfois dehors, comme j'avais toujours fait, et crois que j'aurai encore l'occasion de le faire, ce fut souvent au détriment de mes arrangements domestiques. Mais le dîner dehors, étant, comme je l'ai établi, un facteur constant, n'affecte en rien un état comparatif comme celui-ci. J'appris de mes 2 années d'expérience qu'il en coûterait incroyablement peu de peine de se procurer sa nourriture nécessaire, même sous cette latitude. Qu'un homme peut suivre un régime aussi simple que font les animaux, tout en conservant santé et force. J'ai dîné d'une façon fort satisfaisante, satisfaisante à plusieurs points de vue, simplement d'un plat de pourpier, Portulaca oleracea, que je cueillis dans mon champ de blé, fis bouillir et additionnai de sel. Je donne le latin à cause de la saveur du nom vulgaire. Et dites-moi, que peut désirer de plus un homme raisonnable, en temps de paix, à l'ordinaire midi, qu'un nombre suffisant d'épis de maïs verts bouillis, avec l'addition de sel. Il n'était pas jusqu'à la petite variété dont j'usais qui ne fût une concession aux demandes de l'appétit et non de la santé. Cependant, les hommes en sont arrivés à ce point que fréquemment ils meurent de faim, non par manque de nécessaire, mais par manque de luxe. Et je connais une brave femme qui croit que son fils a perdu la vie pour s'être mis à ne boire que de l'eau. Le lecteur remarquera que je traite le sujet à un point de vue plutôt économique que diététique, et ne s'aventurera pas à mettre ma sobriété à l'épreuve qu'il n'est un office bien garni. Le pain, je commençais par le faire de pure farine de maïs et sel, vrais hoe cakes, que je cuisis devant mon feu, dehors sur un bardeau ou le bout d'une pièce de charpente sciée en construisant ma maison. Mais il avait coutume de prendre le goût de fumée et un arôme de résine. J'essayais aussi la fleur de farine, mais ai fini par trouver un mélange de seigle et de farine de maïs aussi convenable qu'appétissant. Par temps froid, ce n'était pas mince amusement que de cuire plusieurs petits pains de cette chose les uns après les autres, en les surveillant et les retournant avec autant de soin qu'un Égyptien ses œufs en cours d'éclosion. C'était autant de vrais fruits de céréales que je faisais mûrir, et qui avaient à mes sens un parfum rappelant celui d'autres nobles fruits, lequel je retenais aussi longtemps que possible en les enveloppant d'étoffe. Je fis une étude de l'art, aussi antique qu'indispensable, de faire du pain, consultant telles autorités qui s'offraient, retournant au temps primitif et à la première invention du genre sans levain. Quand, de la sauvagerie des noix et des viandes, les hommes en vinrent d'abord à la douceur et au raffinement de ce régime. Et avançant peu à peu dans mes études, je passais par cet aigrissement accidentel de la pâte qu'on suppose avoir enseigné le procédé du levain, et par les diverses fermentations qui s'en suivent, jusqu'au jour où j'arrivais au bon pain frais et sain, soutien de la vie. Le levain, que d'aucuns estiment être l'âme du pain, le spiritus qui remplit son tissu cellulaire, que l'on conserve religieusement comme le feu les vestales, quelques précieuses bouteilles, je suppose, transportées à l'origine à bord du Mayflower, fit l'affaire pour l'Amérique, et son action se lève, se gonfle et se répand encore en flots céréaliens sur tout le pays. Cette semence, je me la procurais régulièrement et fidèlement au village, jusqu'à ce qu'enfin, un beau matin, oubliant les prescriptions, j'échaudais ma levure. Grâce au quel accident, je découvris que celle-ci n'était même pas indispensable, car mes découvertes ne se faisaient pas suivant la méthode synthétique, mais la méthode analytique. Et je l'ai volontiers négligée depuis, quoique la plupart des ménagères m'aient sérieusement assuré qu'il ne saurait être de pain inoffensif et salutaire sans levure. Et les gens d'âge avancé prophétisaient un prompt dépérissement des forces vitales. Encore trouvais-je que ce n'est pas un élément essentiel. Et après m'en être passé 1 année, je suis toujours du domaine des vivants. En outre, je m'applaudis d'échapper à la trivialité de promener dans ma poche une bouteille pleine, à laquelle il arrivait parfois de partir et décharger son contenu à ma déconfiture. Il est plus simple et plus comme il faut de la négliger. L'homme est un animal qui, mieux qu'un autre, peut s'adapter à tout climat et toutes circonstances. Non plus ne mis-je de sel, ni soude, ni autre acide ou alcali dans mon pain. Il semblerait que je le fis suivant la recette que donna Marcus Porcius Caton 2 siècles environ avant Jésus-Christ. Faites ainsi le pain pétri. Lavez-vous bien les mains et lavez de même la huche. Mettez la farine dans la huche, arrosez d'eau progressivement et pétrissez complètement. Une fois qu'elle est bien pétrie, façonnez-la et cuisez à couvert, c'est-à-dire dans un four à pain. Pas un mot du levain. Mais je n'usais pas toujours de ce soutien de la vie. À certains moments, en raison de la platitude de ma bourse, j'en fus sevré pendant plus d'un mois. Il n'est pas un habitant de la Nouvelle-Angleterre qui ne puisse aisément faire pousser tous les éléments de son pain en ce pays de seigle et de maïs, sans dépendre à leur égard de marchés distants et flottants. Si loin sommes-nous cependant de la simplicité et de l'indépendance qu'à Concord, il est rare de trouver de fraîches et douces farines dans les boutiques et que le hominy, comme le maïs, sous une forme encore plus grossière, sont d'un usage fort rare. La plupart du temps, le fermier donne à son bétail et à ses cochons le grain de sa production et achète plus cher à la boutique une farine qui, pour le moins, n'est pas plus salutaire. Je compris que je pouvais facilement produire mon boisseau, sinon 2, de seigle et de maïs. Car le premier poussera sur la terre la plus pauvre, alors que le second n'exige pas la meilleure. Les moudre dans un moulin à bras, de la sorte m'en tirer sans riz et sans porc. Et si quelques douceurs sont nécessaires, je découvris par expérience que je pouvais tirer une fort bonne mélasse, soit de la citrouille, soit de la betterave. Puis reconnus qu'en faisant simplement pousser quelques érables, je me les procurais plus facilement encore. Et qu'enfin, dans le temps où ceci poussait, je pouvais employer divers succès d'années en dehors de ceux que j'ai nommés. Car, ainsi les ancêtres le chantaient, « We can make liquor to sweeten our lips of pumpkins and parsnips and walnut tree chips. » Nous savons faire une liqueur adoucissante aux lèvres de citrouille et panais et copeaux de noyer. Enfin, pour ce qui est du sel, ce produit si vulgaire d'épicerie, se le procurer pourrait être l'occasion d'une visite au bord de la mer. À moins que n'arrivant à m'en passer tout à fait, je n'en busse probablement que moins d'eau. Je ne sache pas que les Indiens aient jamais pris la peine de se mettre en quête de lui. »